L'esprit critique. Mediapart.
Retour à Reims, fragment et l'adaptation par Jean-Gabriel Perriot du célèbre texte éponyme du sociologue Didier Héribon, initialement publié en 2009, dans lequel ce dernier raconte son expérience de transfuge de classe, son homosexualité, son départ du monde ouvrier dont il est issu, puis son retour dans son milieu familial passé de l'espérance communiste au racisme du Front National. Le film, présenté à la quinzaine des réalisateurs puis sur Arte, vient de sortir au cinéma à l'aube d'une élection où la question du vote populaire est au centre des débats. Jean-Gabriel Perriot, auteur récent de « Nos défaites », revient ici à un film de montage d'images, issu d'archives télévisées, mais aussi de fiction, comme il l'avait déjà fait pour revisiter l'histoire de la fraction armée rouge dans « Une jeunesse allemande » en 2015, ou celle de l'épuration des femmes à la libération dans « Eût-elle été criminelle » en 2006. Sur ce montage d'images se font entendre des fragments du texte de Didier Héribon, lu par Adèle Haenel. Retour à Reims fait partie des livres canoniques aujourd'hui de la sociologie française et son adaptation au cinéma constitue sans doute une gageure. Qu'avez-vous pensé, Alice Leroy, des choix opérés par Jean-Gabriel Perriot ?
Peut-être d'abord partir du sous-titre du film, Fragment, parce qu'effectivement, il s'agit d'une adaptation très fragmentaire du livre de Didier Héribon. On pourrait partir du premier montage que réalise Perriot, qui est d'abord pas un montage d'image, mais un montage d'extrait du livre, qui élude complètement la figure d'Héribon. C'est-à-dire que c'est un film qui dit pas tellement « je », mais qui dit plutôt « nous ». Nous, la classe ouvrière, nous, les classes populaires. Et ce qui fait que le texte d'Héribon, le récit d'Héribon, devient, par une sorte de glissement comme ça, prend une forme d'exemplarité et raconte toute une généalogie qui n'est pas seulement celle des parents et grands-parents de la famille de Didier Héribon, mais qui est plus largement une famille fictive, disons, de la classe ouvrière. Donc ça, ce serait un premier effet de montage qui peut surprendre. Moi, j'avais en tête, j'avais vu la mise en scène d'Ostermayer à partir du texte d'Héribon, et je me souvenais du début de la pièce avec un film, un peu maladroit d'ailleurs, dans lequel on voyait Didier Héribon dans un train retourner chez ses parents à Reims. Et on avait exactement, d'ailleurs, à peu près les mêmes plans qu'au début du film de Perriot, avec ces petits pavillons gris, un peu ternes, comme ça, dans la banlieue de Reims. Et Héribon accomplissait ce retour aux sources. Et ici, en fait, dans les images de Perriot, ce qui m'a frappé au début du film, c'est de voir qu'en fait, on n'identifie pas exactement ces espaces-là, ces maisonnettes, puisque, au fond, ce qui manque ici, c'est non seulement le corps, mais la voix d'Héribon. Il a fait le choix de recourir à une voix féminine, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'Adèle Haenel, on pourra en reparler. Donc ça, c'est la première chose peut-être qu'on peut dire. Ensuite, on parlera du montage des images.
Mais alors justement, non, mais pour rester sur ça, parce que c'est un peu une des questions centrales, le fait d'évacuer la parole plus personnelle, enfin le côté autobiographique, même si les parents et les grands-parents de Didier Héribon sont présents, mais notamment l'homosexualité qui pourtant a joué un grand rôle dans le fait que Didier Héribon quitte son milieu pour Paris. Est-ce que ça manque vraiment en désincarnant peut-être le récit, ou est-ce que ça permet, parce qu'on pense forcément à une autre transfuge de classe, Annie Ernaux, qui dans les années tente une autobiographie collective. Est-ce que ça permet d'accéder à une autobiographie collective ? J'ai l'impression que c'est ça que veut faire Jean-Gabriel Perriot, c'est-à-dire qu'il saisit du texte assez personnel de Didier Héribon pour un projet qui ressemble plus à celui d'Annie Ernaux.
Oui, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors après, il faut quand même noter que c'est un film plutôt de commande. Enfin, c'est la productrice qui a contacté Perriot et Adèle Haenel pour faire ce trio-là entre Héribon, Perriot et Haenel autour d'une adaptation de Retour à Reims, que je trouve assez intéressant de prendre acte comme ça qu'il existerait une constellation de figures, de transfuges de classe qui tantôt écrivent des livres, tantôt font des films, etc. D'ailleurs, le début de la carrière de Perriot, durant laquelle il fait des films sur son homosexualité, etc., ressemble par certains aspects aux fragments qui ne sont pas dans le film Retour à Reims. Donc là aussi, il y a un dialogue qui se crée entre l'œuvre de Perriot, qui lui vient de la même région, ou peut-être en tout cas de la classe ouvrière, et ces choix-là qu'il opère pour effectivement vider cette affaire-là de la subjectivité au profit d'un film choral, comme il l'a pu le faire avec Une jeunesse allemande. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'il ait réussi à convertir cet essai sociologique, ou en tout cas cette autobiographie raisonnée, on va dire, en une espèce d'opération d'ethnographie au sein de ses corpus d'archives comme il sait le faire pour ses autres films. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce trajet-là.
Et ce rapport, parce qu'effectivement, on sent bien que le montage, il a d'abord été fait dans le texte de Didier Raymond, et ensuite que des images ont été mises dessus sur ce montage. Est-ce que ça permet de faire autre chose que de l'image illustrative pour vous, Emmanuel Burdeau?
Alors, je voudrais ajouter peut-être une précision à ce qui était dit sur le choix de l'adaptation, qui est effectivement quelque chose de très singulier. Il se trouve que j'ai participé récemment à une discussion en public avec Jean-Gabriel Perriot, et il explique ce choix d'une manière que je trouve très belle, même si au fond, elle ne me convainc qu'à moitié. Ce qu'il a voulu faire avec Retour à Reims, en fait, alors c'est certes une autobiographie collective, mais lui, il insiste d'abord sur le fait qu'il a voulu garder principalement la mer, la mer de Didier Raymond. Il a voulu faire, d'une certaine manière, le film de la mer, c'est de raconter ce que tu as dit en introduction, c'est de raconter cet itinéraire depuis le vote communiste jusqu'au vote Front National. Et c'est ce qu'a voulu garder Jean-Gabriel Perriot. Et pourquoi lui, qui est homosexuel et qui en fait une dimension de son travail, a-t-il décidé d'écarter cet aspect du livre qui est absolument central dans le livre, comme est central chez Ribon en général, la question de l'injure, etc. C'est par une sorte de paradoxe, parce qu'il pensait que son film deviendrait moins personnel. Parce que s'il avait gardé cet aspect-là, il aurait dû, je reprends ses paroles, mettre la personne d'Héribon en avant. Et donc lui, d'une certaine manière, se serait trouvé parler à travers Héribon par procuration, ce qu'il ne voulait pas faire. Il a le sentiment d'avoir fait un film beaucoup plus personnel en le faisant de cette façon-là. Et il a le sentiment aussi, c'est le sien, et ça se discute, mais enfin, peu importe, je pense que ça ajoute à la clarté du film. Il a le sentiment qu'aujourd'hui, la question, disons, de l'homosexualité, la question intime et politique, pardon, de l'homosexualité, est prise en charge par le cinéma. Et que donc, s'il y a une lacune à combler, elle n'est pas là, alors qu'en revanche, la représentation de la classe populaire, de l'histoire de la classe populaire, de la classe ouvrière en France, en particulier du côté des femmes, n'a pas été faite. Alors, ça ouvre quand même, pour moi, une petite question, peut-être pour répondre à la deuxième remarque. C'est qu'il a voulu faire un film très personnel, mais qu'il l'est, je dirais, à la troisième personne du singulier, puisque il a changé la voix, le jeu des ribons, le jeu masculin en un récit dit par Adèle Haenel. Mais enfin, lui estime que, faisant ça, il raconte son histoire, puisqu'il dit, moi je viens pas d'une famille d'ouvriers, mais de travailleurs isolés, c'est mon histoire, et c'est mon histoire que je veux raconter à travers ça. Bon, cela étant, en effet, il y a ce désir d'une sorte d'autobiographie collective. Et c'est là où effectivement apparaît la question de la mise en image. Moi, je trouve que le travail de Jean-Gabriel Perriot, qui maintenant, ça fait quoi, presque 20 ans qu'il fait des films, depuis 200 000 fantômes, il fait beaucoup de choses, il est extrêmement actif. Il fait un travail à partir d'archives qui est absolument remarquable. En plus, il explique très bien qu'il n'est pas question pour lui de gagner de l'argent, là où, sans rémunérer, sans aller chercher les ayants droit. Donc c'est... Alors qu'aujourd'hui, les archives sont, d'une certaine façon, c'est un peu rapide à dire, en accès libre, lui fait un travail extrêmement sérieux. Cela étant, moi, j'ai quand même quelques réserves ou quelques embarras, notamment deux choses. D'une part, que le film partant, même peut-être de l'avant-guerre et arrivant jusqu'à aujourd'hui, il y a un moment où les images d'archives changent de nature et deviennent non pas des images au passé, même si elles ne sont jamais qu'au passé, mais des images qui voudraient avoir une vertu incitatrice. C'est très clair, la fin, c'est comme une sorte de grand feu d'artifice. Bon, cette conversion, elle me semble difficile à réussir, et peut-être le film, là, se trouve-t-il lui aussi, très différemment de Diastème, mais lui aussi un peu esclave du moment auquel il sort, et pour lequel, sans doute, là aussi, il a été calculé, même si c'est dans des perspectives qui n'ont rien à voir avec celles de Diastème. Et l'autre chose, c'est que les images d'archives, elles sont tantôt extraites de documents télévisés, ce qui permet à chacun de voir que la télévision n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, tantôt extraite de films de fiction, et tantôt extraite aussi, parce que c'est de films documentaires dont certains sont extrêmement connus, les films de Marker, le film de Piala, etc. Jusqu'à cet extrait qui a beaucoup marqué Perriot, mais qui dans le film fait sourire le spectateur, mais qui est un peu un cheveu sur la soupe, un relativement long extrait de la crise de Colin Serrault. Et moi, je trouve qu'on est dans un moment aujourd'hui où il y a un usage généralisé des archives. Depuis le clip de Zemmour jusqu'à Jean-Gabriel Perriot, que je ne mets absolument pas dans le même panier, sinon pour dire que l'archive est devenue un élément de rhétorique extrêmement présent dans le cinéma contemporain, ce qui n'était pas vrai il y a encore 20 ans. Et j'ai parfois le sentiment que, même lorsque les archives sont extrêmement bien choisies, comme parce que Perriot fait un travail avec une documentaliste, quelque part, c'est très difficile pour un spectateur dans le mouvement d'apprécier la sélection et de ne pas être pris au jeu d'espèce de séduction de l'image d'archive. L'image d'archive est très séduisante, elle est très évocatrice pour n'importe qui, d'autant plus lorsqu'elle est soutenue par une voix off. Et je trouve que quelque chose de la précision ou de l'acuité de la matière se perd forcément dans cette séduction de l'archive. Et moi, je regrette un peu, j'aimerais parfois que le montage soit plus coupé, plus syncopé et avec moins de fluidité, pour qu'on voit mieux ressortir le document comme document.
Alice Leroy, sur cet usage de l'archive, et quand même sur ce choix particulier de mélanger, alors, sans le dire, parce que c'est pas... Alors ça se sent, mais voilà, vous avez sans doute des références. Il y a à la fois des extraits de films très connus, mais d'autres de fiction qu'on ne connaît pas. Ça pose quand même une question assez difficile, parce que des fois, on voit bien que la fiction, elle est là pour compenser des archives qui n'ont pas lieu. C'est vrai, donc, de la crise avec ce personnage du raciste, parce que sans doute, il n'a pas trouvé à la télé vraiment à interviewer quelqu'un qui porterait une parole Front National. On ne sait jamais trop si, des fois, il s'agit de clins d'œil, parce qu'il y a quand même toutes des références à un cinéma des années 60, porteur d'espoir, ou si on est là dans « il faut quand même remplir et illustrer un texte ».
Alors effectivement, l'enjeu là, c'est de raconter une histoire à travers un montage d'archives. Tout à l'heure, on évoquait une jeunesse allemande. Et il me semble qu'une jeunesse allemande qui est construite à peu près sur le même principe, c'est-à-dire c'est aussi un montage dialectique, et il y a aussi deux mouvements dans une jeunesse allemande. Il y a un premier mouvement dans lequel tous ces jeunes gens fringants de la RAF maîtrisent parfaitement et produisent...
Donc la fraction armée rouge.
La fraction armée rouge, pardon. Produisent leurs propres images, notamment parce qu'un certain nombre d'entre eux ont fait l'école de cinéma à Berlin. Et puis dans le deuxième mouvement du film, on voyait comment leur passage à la clandestinité et à la lutte armée les dépossédait de cette capacité à raconter leur propre histoire à travers leurs propres images, et comment ils devenaient les victimes d'images qui les racontaient et qui les représentaient en les désignant comme des terroristes. Ce mouvement dialectique, autant il était éclairant et convaincant dans une jeunesse allemande, autant ici je trouve que le mouvement dialectique, enfin le montage dialectique du premier au deuxième mouvement, il a quelque chose d'un peu mécanique, d'assez rhétorique. Je suis d'accord qu'il y a ici toute une rhétorique de l'archive et qu'il y a quelque chose d'assez séduisant et en même temps d'assez perturbant dans le fait d'aller convoquer des archives qui sont très disparates pour leur faire raconter une histoire, en les arrachant complètement à leur contexte de création et d'énonciation. Par exemple, moi je trouve ça assez curieux de faire dialoguer le très beau film de Piala, L'amour existe, avec les films des groupes Medvedkin, qui ne sont pas du tout des films réalisés dans le même contexte, qui ne font pas non plus entendre les mêmes voix. Il y a quelque chose de curieux en fait dans ces décrochages, enfin ce montage d'archives qui met toutes ces images sur le même plan.
Oui, qui aplatit quand même des images de la fiction, des images de la réalité, des images de films de nature très très différentes. Est-ce que ça vous a gêné aussi, Occitane ?
Moi j'ai eu l'impression que là, effectivement, Perriot changeait complètement de stratégie par rapport effectivement à une jeunesse allemande, et encore plus par rapport à ses courts-métrages, et notamment un en particulier auquel j'ai beaucoup pensé pendant que je regardais Retour à Reims, qui s'appelle 21 avril, qui est un court-métrage sur le second tour Chirac-Le Pen, pour lequel, pour le dire très rapidement, en fait, il s'est mis à scanner compulsivement toutes les images qui se trouvaient chez lui, notamment ses images de famille, et qu'il a monté de manière très cut et qui, en fait, en étant montées les unes à la suite des autres, finissent par devenir une matière un peu fluide avec des effets de transformation des formes à l'intérieur des images. Donc ça, c'est la première partie de son travail, un travail qui est beaucoup plus sur la forme et qui est beaucoup plus formaliste, donc avec des histoires de motifs, de figures et de comment ces figures conduisent vers soit donc une dépossession des images, comme tu disais Alice, dans une jeunesse allemande, soit vers des images de la violence qui se convertissent en images performatives de la politique. Et là, effectivement, j'ai eu l'impression que les images valaient beaucoup plus pour ce qu'elles disaient en elles-mêmes, pour un discours qu'elles portaient. D'ailleurs, elles sont longues avec des dialogues, mais des dialogues qui sont là pour répondre à la parole d'Adèle Haenel, contrairement à une jeunesse allemande où les dialogues valent pour eux-mêmes, il n'y a pas de commentaires, etc. Et là, effectivement, c'est un film de Perriot qui est peut-être son premier film purement narratif. C'est une rupture, quoi, par rapport à ce qu'il a pu se faire avant, y compris par rapport à Nos défaites, qui est un film où, bien qu'il y ait un film d'entretien même si c'était un autre style, mais il y a quand même cette réflexion.
Oui, avec des lycéens, des jeunes qui rejouent aussi des scènes emblématiques du cinéma français.
Mais qui était encore une autre stratégie par rapport...
Pour à la fois reparler effectivement du choix d'Adèle Haenel et de ce que vous commenciez à évoquer, sans tout dévoiler, Emmanuel Burdeau, de cet épilogue qui nous projette dans quelque chose d'autre, où là, il y a une sorte de medley des luttes contemporaines. Moi, ça m'a quand même posé question, parce qu'au fond, Retour à Reims, c'est un texte important, mais qui a été déjà beaucoup remixé d'une certaine manière, à la fois par Didier Ribon lui-même, parce qu'il a fait Retour sur Retour à Reims, puis La Société comme Verdict. Alice Leroy parlait tout à l'heure de la manière dont Thomas Ostermeyer s'en était emparé. Et là, on sent à la fin la volonté de projeter les analyses justes de Didier Ribon sur les trahisons de la gauche officielle, sur le désarroi de la classe ouvrière, de les projeter sur le présent. Au fond, sur quelque chose qui finit par un truc un peu confus. Alors, il y a, j'imagine, l'idée d'une intersectionnalité des luttes en mettant tout dans le même plat, en mettant Adèle Haenel, donc, qui emblématise les luttes contemporaines. Mais du coup, est-ce que là, c'est pas justement le pas de trop ?
J'aime pas tellement cette fin, pour être honnête. Mais en effet, c'est peut-être le pas de trop. Bon, on peut quand même le comprendre dans le cadre de ce récit. Ce qu'a voulu raconter Perriot, et pour lui, c'est pas simplement une histoire, disons une histoire politique de la France, mais c'est une histoire de la représentation. Il a voulu montrer comment, à partir du début des années 80, on l'a dit, le vote communiste, de manière importante, se convertit en vote pour le Front National, et comment, et en passant à travers le personnage, donc de la mère de Didier Ribon, qui raconte cette histoire. Bon, on voit aussi dans le film, et je crois que c'est très important pour lui, comment est-ce que, à partir de ce moment-là aussi, la télévision donne la parole différemment aux gens, leur accorde moins de temps, etc. etc. Bon, c'est des choses qui sont très importantes. Bon. Cette sorte de post-scriptum, en tout cas qui est un post-scriptum par rapport à l'adaptation du livre, puisque le livre, les images qu'on voit là sont des images dont le livre ne pouvait pas...
Le livre date de 2009 et on est sur des très contemporains.
Voilà, que le livre ne pouvait pas connaître. Il y a un moment, c'est intéressant parce que Perriot, il a gardé, je crois, 17 pages sur un livre qui en fait 250, je crois. Donc c'est vraiment des petits fragments. Enfin, d'un point de vue quantitatif, c'est peu de choses. Il n'y a aucun défaut d'intelligibilité du texte, ce qui est quand même déjà une prouesse. C'est un texte qui n'est pas toujours simple, mais je trouve qui est rendu vraiment très audible et très clair. Il me semble que vers la fin du film, et sans doute aussi vers la fin du texte, Didier Ribon explique comment est-ce que peut-être il faudrait penser à l'étape d'après. Puisqu'il y a eu par une sorte de mauvaise ruse de l'histoire, les anciens électeurs communistes sont devenus des électeurs du Front National, mais il laisse à entendre peut-être que ce détour en préparait un autre, et que de même qu'ils se sont déportés vers la droite, ils pourraient se redéporter, donc se reporter vers la gauche. C'est comme ça que j'accepte cette fin, qui me semble être... Il y a un petit opportunisme en même temps
avec la guitare électrique. Enfin, il y a un côté, on a l'impression qu'il abandonne aussi. Enfin,
ça, c'est une forme qu'il a beaucoup mobilisée.
Voilà, exactement.
Mobilisée.
Enfin, exactement, c'est ce que j'allais dire.
Les films de manif avec du rock, ça, c'est une marque de fabrique.
Il y a un de ces films qui s'appelle L'Art délicat de la matraque et qui dure 4 minutes, qui est sur This Is Love, Not a Love Song de Public Image Limited. Ça, il explique très bien comment il a un double rapport à la forme et à l'archive. Tantôt, dans des films, disons, on pourrait presque dire d'agit-prop, il manipule l'archive à l'envi pour produire des films un peu, voilà, des films d'agitation, des films courts en général, et tantôt, dans des films plus longs, un respect plus grand de l'archive. Là, il essaye de conjuguer les autres, mais comme il commence d'abord, peut-être par son film, jusque-là, c'est sans doute son film le plus sage, le plus linéaire, que tout à coup, ce film très sage bascule dans une sorte de post-scriptum d'agitation, il est normal que ça ne fonctionne qu'à moitié.
Retour à Reims, fragment de Jean-Gabriel Perriot, c'est en salle depuis mercredi dernier.
L'esprit critique. Mediapart.